genèveactive.ch.
Jacqueline Engelmann et Alain Quemin, comment la gratuité des lieux culturels est-elle perçue? Il semble que le public jeune apprécie, mais des directeurs de musées estiment que l'entrée gratuite dévalorise leur travail. Alain Quemin.
Les jeunes, aujourd'hui, pour eux, il n'est pas dévalorisant de ne pas payer pour la culture, c'est payer pour la culture qui devient aberrant. Ils n'ont pas du tout intégré Internet. On voit qu'ils téléchargent depuis des années de façon systématique, que ce soit la musique, que ce soit les films. L'argument sur lequel se raidissent un petit peu les responsables d'institution, c'est qu'ils savent bien que quand on leur impose la gratuité, on ne compense jamais, on leur promet toujours qu'on va compenser la perte de recettes, ils savent très bien qu'on ne le compense jamais complètement. Donc ils ont toujours peur de perdre de recettes et donc ils disent ça dévalorise, mais on voit bien effectivement qu'il y a des tas de catégories, des publics qui pour eux devraient être des catégories prioritaires à savoir les jeunes, chez qui le fait de payer un produit culturel est maintenant quelque chose de complètement dépassé.
Jacqueline Heidelman.
Récemment, il y avait deux types d'argumentaires qui s'opposaient sur cette question de gratuité. Il y avait un argumentaire quasi de type idéologique et un argumentaire de type marketing aussi. Hein. Donc, et en réalité, l'émergence justement d'une offre culturelle gratuite, que ce soit Internet, les magazines, dans le métro, des choses comme ça, et puis des habitudes effectivement générationnelles qui ont été prises, font exploser complètement ces deux trucs et ils substituent autre chose. Alors, c'est pour ça que là, elle a dit, alors je ne sais pas si ça va substituer durablement finalement, mais en tout cas, à part l'argumentaire scientifique qui peut faire pencher dans un sens ou dans un autre, on va dire l'efficacité de la gratuité sur effectivement des pratiques culturelle plus intensive dans certains milieux. On va peut-être réaborder aussi la question aussi sur qu'est-ce que c'est que des pratiques culturelles, parce qu'en même temps, toujours est-il que tout ce qui est Internet, consultation en ligne, nouveaux médias, y compris technologies embarquées, quand on va faire une visite, donc on n'est plus du tout dépendant non plus de l'offre de médiation sur place, on peut complètement se la fabriquer avant de venir, fait que il y a tout un tas de choses qui sont à propos du payant, qui sont en train de s'effondrer complètement de même, parce qu'effectivement les médias ou les modalités d'accès à ces espaces culturels sont complètement changées.
Alain Quemin.
La façon également d'étudier la consommation, parce que pendant longtemps, même la culture, on l'a abordée en termes de consommation, on pouvait effectivement chercher une certaine forme d'expression des préférences des individus dans les montants qu'ils consacraient à telle ou telle forme culturelle, et bien là, effectivement, maintenant, c'est complètement remis à plat avec Internet, le téléchargement à titre gratuit de musique, de films également, avec ce que disait Jacqueline tout à l'heure, les journaux qui maintenant peuvent également être lus, les journaux gratuits, sans qu'il y ait une dépense qui soit associée. Donc c'est vrai que ça amène à revoir complètement les formes de consommation, en particulier chez certains publics et en particulier chez les jeunes, qui eux sont habitués à la gratuité, pour qui payer pour accéder à la culture peut être relativement incongru. Et même nous, en tant que chercheurs, je pense qu'on le voit également assez bien. Personnellement, comme je suis spécialiste des arts plastiques, je déteste payer pour rentrer dans un musée, alors ça ne pose aucun problème de payer pour aller à un spectacle de musique, pour aller à un spectacle de danse, pour acheter un livre. Mais on voit bien que finalement, quand on est habitué à un certain rapport à la gratuité dans un cadre, eh bien finalement, on a beaucoup de mal à accepter de payer. Et donc, si c'est plus général, donc nous, dans notre cas particulier, c'est souvent une pratique culturelle à laquelle on associe la gratuité, mais si les jeunes associent la gratuité à l'offre culturelle en général, c'est vrai que pour eux, ça peut être un frein d'autant plus fort ensuite de devoir payer pour accéder à la culture savante dans un musée, si c'est pratiquement le seul espace où, de façon résiduelle, on leur demande de payer, quoi.
Mais ça, c'est pour la vie des consommateurs donc du musée, mais de la part des producteurs, c'est-à-dire les directeurs du musée, je pense à ceux qui veulent faire payer en disant que c'est ce qui valorisera leur travail. Ici, par exemple, à Genève, l'idée est répandue de faire payer l'entrée à peu près équivalente à une place de cinéma. Est-ce que c'est une opinion donc où le directeur du musée sera un petit peu en retard par rapport à son public?
Le directeur de musée a toujours peur de perdre une partie de ses ressources. Et on sait que les pouvoirs publics promettent toujours une compensation si l'on instaure la gratuité, mais qu'en général, les pouvoirs publics en profitent un petit peu pour se désengager. C'est aussi du domaine de la responsabilité de la collectivité, de faire en sorte que si l'on impose aux responsables d'institutions la gratuité, ça ne se traduise pas par une baisse réelle des ressources.
Est-ce que c'est instaurer une culture de la gratuité de public qui se déplacerait uniquement dans les établissements où c'est gratuit?
Il y a sans doute une fraction de du public qui se déplace justement à la faveur et uniquement à la faveur. Même dans les premières études qui ont été faites à propos du public qui fréquente le premier dimanche du mois gratuit au Louvre, puisque l'opération a commencé il y a... un bon moment déjà, c'était quoi, 96. Donc sur la durée, on s'est aperçu qu'il y avait des habitués des dimanches gratuits. Et donc finalement, qui organisaient leur visite pour profiter de ces dimanches gratuits. On a vu aussi que là, sur l'expérimentation de la gratuité, dans certains établissements, on atteignait jusqu'à 10% de personnes qui profitaient de la gratuité pour revenir visiter l'établissement. Donc il y a probablement une fidélisation... mais alors, la question de la fidélisation, justement, en particulier là sur les musées, il ne faut pas simplement la concevoir comme une fidélisation à un endroit particulier, mais plutôt à un ensemble, un ensemble de lieux qui présentent les mêmes caractéristiques. Et c'est en ce sens-là qu'on peut voir cette dynamique qui s'instaure en cas de gratuité, où on se met à visiter d'autres choses et qu'après, bon, effectivement, on est en mesure de faire ses choix, quoi.
Est-ce qu'il y a une tranche de public qui est plus sensible à cette gratuité?
Là, nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait d'un côté les étudiants et de l'autre côté les gens qui étaient plutôt d'origine modeste. Donc là, on était... Voilà, ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, c'est dans ce cas de figure-là. On l'a peut-être plus vu que d'autres études l'avaient vu, parce que, en fait, le panel d'établissements pris en considération était, comme je l'ai dit tout à l'heure, partout en France, et non pas simplement localisé à Paris ou en Île-de-France, où là, effectivement, les effets de la structure du bassin de population fait qu'on a aussi tendance à rencontrer plus souvent un certain type de public, si on est à l'échelle de la France entière. Mais ça fait des années que les gens qui travaillent un peu sérieusement sur la question des pratiques culturelles voient qu'il y a des changements et qu'on ne peut pas tout regarder à l'aune de ce qu'on voit à Paris et qu'en réalité... les publics sont multiples.
Et en plus également, vous avez inclus un ensemble de musées qui ne se limitent pas au musée des Beaux-Arts, qui sont effectivement probablement plus sélectifs en termes de caractéristiques des visiteurs, mais vous aviez inclus des musées plus proches des musées des sciences techniques, comme le musée de l'air et de l'espace au Bourget.
Civilisation, histoire, sciences et techniques et art. À la limite, oui, il y avait même peut-être moins une sous-représentation en quelque sorte des musées d'art dans l'échantillon, mais c'est aussi la manière dont on définit ce que c'est qu'un musée ou un monument, et est-ce que c'est uniquement un endroit où on voit des collections, et notamment des collections d'art. Donc c'est encore...
Benoît Sérou.
C'est vrai que pour corroborer les effets très positifs de la gratuité là, qui était évoquée, des expériences précurseurs comme Beaubourg, le premier Beaubourg, le premier centre Pompidou, où beaucoup d'espaces étaient gratuits, je pense aux galeries contemporaines, aux galeries du centre de création industrielle, avaient des effets de ce type-là et de circulation des publics, évidemment la bibliothèque publique d'information. Et donc là, on est en 77, et en 96, puisqu'est évoquée l'expérience un dimanche gratuit par mois au Louvre, il y avait eu une évaluation ad hoc qui avait été transmise à Catherine Trautmann, ministre de la Culture, qui mettait en évidence les effets quantitatifs et qualitatifs en termes d'élargissement et de fidélisation du public. Et pour revenir à votre question tout à l'heure, du point de vue des directeurs d'institutions, il y a aussi la réponse symétrique inverse. Là, je pense à la lecture publique, qui a une tradition de gratuité, une tradition d'accès libre. Et il y a eu beaucoup de bibliothèques de lecture publique qui ont commencé à mettre en place des tarifications et qui ont connu des effets d'éviction très conséquents, jusqu'à 60% de leur lectorat, et qui était le lectorat le plus défavorisé en termes de capital culturel, pour emprunter à ce lexique, la mise en place d'une tarification là où il y a une culture de la gratuité peut provoquer des effets d'exclusion ou d'éviction très importants.
Alain Quemin.
En fait, pour tenter d'élargir les publics, notamment en termes de caractéristiques sociales, il ne suffit pas, il serait naïf de penser qu'il suffit d'appliquer la gratuité. Voilà. Donc, et c'est probablement souvent ce qui a entraîné le rejet finalement de l'adoption de telles mesures en disant ce n'est pas suffisant. Pour autant, le fait de ne pas conserver le principe de la gratuité s'accompagne de plus forts effets d'éviction. Donc je crois que c'est quelque chose qui est assez clair et qui vient complètement confirmer cette enquête vraiment très importante qui a été menée donc, par Jacqueline Edelman notamment avec son collaborateur du CERLIS, par Benoît Serroux également. Donc c'est ça, je crois, qui est vraiment l'idée à conserver. Ça ne suffit pas, mais c'est quand même efficace.
Jacqueline Edelman.
Quand on disait la gratuité ne suffit pas, effectivement, ce qui manque, c'est tout ce qui est le dispositif de médiation, en fait, et qui donne des outils d'aide à l'interprétation de ce qu'on voit quand on ne les possède pas, qu'on ne les a pas eu autrement. C'est en ce sens-là que la gratuité ne suffit pas.
Est-ce que vous avez pu étudier à quel point les outils de médiation proposés étaient utilisés ?
Alors, dans le cas précis là, de cette offre de gratuité, on l'a assez mal vue, mais dans d'autres cas qu'on a étudiés, bien évidemment, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que les visiteurs de musées lisent, ça c'est une première chose, que même s'ils ils se dotent d'audio guide, ils lisent quand même en plus, et si en plus une médiation humaine, et si là encore elle est peu onéreuse, ils s'en servent. Donc ça c'est une offre de médiation formelle, mais sinon on voit très bien comment justement en venant en compagnie, il y a une médiation informelle aussi qui est présente et comment on s'aide à comprendre les choses mutuellement quand on a des difficultés. Du reste, la visite en compagnie, qui est en fait un des gros changements sur les comportements de visite dans les musées depuis une quarantaine d'années, est aussi un signe de démocratisation de l'audience. Bien sûr, plus on est à l'aise et finalement érudit, et mieux et plus on visite seul.
Et là, votre question est complètement légitime, effectivement. Les gens utilisent-ils les dispositifs de médiation ? Mais on peut même, je pense, aller plus loin. Le simple fait que les dispositifs de médiation existent montre que même si les gens ne les utilisent pas, ils ont le droit de venir au musée sans être pleinement experts. Et donc, il y a également un rôle, je pense, symbolique très important. Il y a à la fois la façon dont ils vont être mobilisés par les visiteurs, mais également dont ils vont pouvoir rassurer certains visiteurs qui, même s'ils ne les utilisent pas, sauront que on peut venir au musée sans être la personne qui maîtrise complètement le sujet, qui maîtrise complètement la forme culturelle, la forme artistique exposée. Et donc, ils sont doublement utiles, à la fois pour leur utilité matérielle, mais également pour leur utilité symbolique, tous ces dispositifs de médiation.
Est-ce qu'il y a un mode, un dispositif de médiation qui a été privilégié, que ce soit une présence humaine, une distribution de documents ou autre ?
Là, dans le cas qu'on a étudié là, sur la gratuité, les choses ont été multiples, mais comme je le dis tout à l'heure, nous on ne s'est pas trop attaché à ça, mais dans d'autres cas d'études, et on en a fait de nombreuses dans notre laboratoire, où on s'est intéressé sur justement cette manière dont les visiteurs de s'approprier finalement le maximum de clés d'interprétation pour vraiment vivre pleinement l'expérience de la visite. Oui, il y a plutôt des démarches qui sont immédiates, mais il y a surtout des choses qui se cumulent. Et c'est sûr que là-dedans, la médiation humaine joue un rôle particulier, à la fois dans une médiation qui peut avoir lieu avant même la venue, par le bouche à oreille certes, par aussi des visites virtuelles, des sites des établissements qui aussi aident à préparer la visite. Et puis après, une fois sur place, alors évidemment, après, on a toujours ce débat sur est-ce que la médiation fait écran au rapport direct avec l'œuvre ou au contraire aide à y voir plus clair. Donc je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils en pensent, mes collègues.
Mais à part la gratuité, est-ce que vous avez pu déterminer l'élément qui incitait un visiteur, enfin le public, à se déplacer pour un type particulier d'exposition ?
Ah ben oui, mais bon, il y a le thème, il y a tout un tas de choses, mais il y a aussi finalement le rapport qu'on a avec ce type de lieu et le fait que leurs visites deviennent de plus ou moins routinières. Et on voit très bien qu'il y a des moments de visite qui sont extrêmement divers, en même temps que les gens avec qui on va visiter peuvent être également extrêmement divers, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller visiter à l'heure du déjeuner vite fait avec une copine, une exposition de Beaux-Arts, et puis le mercredi après-midi aller dans un musée de sciences parce que les enfants, c'est quand même ça qui les intéresse, surtout quand le musée est interactif, et puis voir des choses plus historiques avec son conjoint masculin, parce que faut dire aussi, il y a quand même des le public des musées se différencie d'un genre de musée à l'autre, et effectivement on sait maintenant que, par exemple, les musées d'histoire sont plus masculins que les musées d'art, par exemple.
Quand on ne paye pas, je pense également qu'on se sent moins obligé de rester. Donc les gens qui, a priori, pourraient être les plus résistants, les plus réticents à l'idée d'aller au musée, finalement, après tout, ça ne coûte rien de rentrer et de voir et de faire l'expérience. Donc c'est vrai que ça permet également de faire sauter des verrous psychologiques, de savoir que de toute façon, on n'aura pas perdu des montants qui peuvent être sinon assez importants. Et dans certains musées, la tarification n'est pas sans incidence sur la fréquentation.
Donc vous concluez, vous le disiez tout à l'heure, hein, une fidélisation grâce à la gratuité.
Oui, mais pas forcément à la fidélisation à un endroit donné, mais plutôt à un ensemble d'établissements qui font du même ordre que l'endroit qui offre la gratuité, à condition évidemment qu'il y ait une espèce de cohérence quand même dans les politiques tarifaires de ces établissements, ce qui est quand même rarement le cas. Et donc ce qui fait aussi qu'il y a tout un tas de représentations sur le coût d'une visite qui sont... étonnantes, mais qui ont un sens par rapport à des tarifications qui sont vraiment extrêmement hétéroclites d'un établissement à l'autre. Je crois que tu voulais dire.
Non, c'était aussi là pour prolonger ce que vous disiez l'un et l'autre. Enfin, plus les formes d'expression artistique sont contemporaines ou plus, en tout cas éloignées en termes de code et de familiarité pour la personne, plus la gratuité peut aussi avoir une influence, parce que en effet, elle pourra passer 15 minutes à découvrir une galerie contemporaine et à ressortir, tandis que s'il y a des coûts d'entrée au départ, il y aura parfois même une logique d'optimisation de la visite, de rester 45 minutes ou une heure avec des difficultés parce que les compétences esthétiques pour apprécier l'œuvre est moindre. Et donc la liberté que crée la gratuité est d'autant plus importante que le code esthétique ou la forme d'expression artistique est lointaine de la personne qui s'aventure du coup à la découvrir, pour ensuite peut-être instaurer un rapport de fidélité avec tel type d'institution.
Genève Active.ch